Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Hébreux, chapitre 1, versets 13 et 14. Hébreux 1, 13 et 14. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Alors, on va demander la bénédiction du Seigneur. Seigneur, on vient devant toi. Tu as permis que dans ta révélation, dans tes saintes écritures, les anges sont vraiment présents à beaucoup d'endroits, beaucoup de versets. Alors, tu nous as révélé ces choses-là. Il y a sûrement des raisons pour lesquelles tu as voulu le faire. Alors, permets qu'on soit attentif ce matin et qu'on applique dans nos vies les leçons. Parce que dans chaque sermon, il y a toujours des choses qu'on se devrait d'appliquer pour transformer nos vies, pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Alors, ouvre nos esprits de manière à ce qu'on soit vraiment réceptif et qu'on ait le réflexe de mettre ces choses en pratique dans notre vie de tous les jours pour ta plus grande gloire. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
Alors, le titre que j'ai donné aux deux prochaines, à la leçon d'aujourd'hui et la semaine prochaine, ça va être « Les anges, qui sont-ils et pourquoi Dieu les a-t-il créés? » Alors, ça c'est le titre, mais on va voir qu'on va diviser l'étude en quatre grandes idées. Donc, on va en regarder fort probablement deux aujourd'hui et deux autres la semaine prochaine. Alors, la première idée qu'on va regarder, qu'on va développer, c'est « Qui sont les anges? » Bon, on parle des anges bons, on ne parle pas des anges mauvais. Et la deuxième idée qu'on va regarder aujourd'hui, « Quand ont-ils été créés? » Et la troisième, on va voir un petit peu l'ensemble du programme pour les deux semaines qui viennent. Alors, la troisième, ça va être leur place dans le plan de Dieu. Alors, quelle place les anges jouent dans le plan général de Dieu, dans ses relations avec les hommes? Et la quatrième, ça va être les anges dans la vie du croyant. Les anges dans la vie du croyant. Alors, moi, j'ai été béni en la préparant parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. On a besoin parfois que nos mémoires soient rafraîchies. Alors, le sujet de l'existence des anges est une mode qui grandit sans cesse dans nos sociétés modernes, on le sait, et même dans le monde des gens qui ne croient pas à la Bible. Beaucoup d'enseignements concernant les anges sont erronés tout simplement parce qu'ils ne sont pas basés sur les versets des Écritures. J'ai trouvé une déclaration en préparant ça d'un pasteur et un théologien américain qui a fait une étude sur le sujet de la place des anges dans la société moderne et dans la vie des chrétiens modernes. Alors, il s'appelle Kenneth Gangle. Il a écrit un article dans la revue Kindred Spirit, qui est une revue chrétienne américaine. Et il a écrit ça à l'été 1995, et sa déclaration est en la page 7. Alors, son titre qu'il avait donné à son article, c'était « Angelomania », autrement dit « l'angélomanie », autrement dit « aujourd'hui, surtout aux États-Unis, en Europe, un petit peu partout, on est vraiment à une époque d'angélomanie. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est parce que les gens sont rendus fascinés par ce sujet-là et sont inondés d'informations, soit par des livres, soit par la télévision, soit par toutes sortes de médias sur ce sujet-là. Une chose qu'on peut rester surpris un petit peu aussi, c'est parce que il y a le magazine Newsweek, du 28 novembre 1994, a publié un article qui s'appelait « In Search of the Sacred » sur le sujet, et ça révélait les faits suivants. Tenez-vous bien, parce que c'est assez surprenant. 20% des Américains, c'est beaucoup là, d'une nation d'au-dessus de 300 millions, sont rendus au-dessus de 300 millions, 20%, c'est beaucoup, de tous les Américains affirmaient, au moment de l'enquête, avoir eu une révélation directe de Dieu au cours de la dernière année. Fait que les gens Ils affirment que Dieu leur a parlé directement, et ça, c'est 20% de la population. Moi, ça me fait peur un peu beaucoup. Et autre chose, ces mêmes Américains-là, 13% d'entre eux ont déclaré, ont affirmé qu'ils avaient vu ou senti la présence d'un ange au cours de la dernière année. Alors, c'est pas innocent, là, les livres qui circulent, les émissions de télévision. Ça fait en sorte que ça rentre dans les esprits des gens, et les gens ont l'imagination tellement excitée. Imaginez-vous quand 13% du monde, on prend une nation de 300 ou au-dessus de 300 millions de personnes, 13%, ça veut dire qu'il y a au moins quelque chose comme 35 millions de personnes qui disent qu'ils ont vu un ange ou qui ont senti la présence d'un ange au cours de la dernière année. Alors, ça nous montre une chose qu'on a vraiment besoin, comme chrétiens, de reviser nos notions et de s'assurer qu'ils sont bien bibliques. On pourrait se demander pourquoi on a besoin de reviser nos notions concernant l'angélologie ou la doctrine des anges. Parce que, tout simplement, on serait coupable d'ignorer ou de négliger volontairement ce que le Seigneur a mis dans les Saintes Écritures les concernant. Si je vous demandais une question, dans combien de passages des Écritures il y a mention des anges? 370 fois dans les Écritures, on parle des anges. Alors, si le Seigneur nous donne tant d'informations sur eux, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent de faire, c'est parce que c'est important qu'on le sache. Sinon, il ne l'aurait pas mentionné dans les Écritures. 370 fois, ça nous donne une idée. Et quand on regarde, si on regarde l'ensemble des livres des Écritures, on sait qu'on a 66 livres dans les Écritures. On pourrait dire dans combien de livres on trouve la présence des anges? 34 livres. Ils sont présents presque dans tous les livres. Beaucoup de livres sont présents, en tout cas. Alors, on se doit de plonger nos regards dans ce sujet passionnant. Et, bien entendu, si on le fait, ça va nous donner une compréhension qui est plus biblique et plus sainte et plus saine du sujet. Alors, on va commencer par le premier point, qui sont les anges. On pourrait définir les anges de la manière suivante. Là, je me base sur Wayne Grudem, dans son livre de théologie systématique, aux éditions Excelsis. Il y a un chapitre sur les anges et il donne une définition. Et la définition que lui donne aux anges est la suivante. Il dit, les anges sont des êtres spirituels créés, donc ça c'est la première chose à retenir, doués de jugement moral. Donc, sur ça, ils ont une ressemblance avec les hommes, d'une grande intelligence. Les Écritures parlent souvent des anges comme ayant une intelligence de beaucoup supérieure à celle des hommes, mais, bien entendu, sans corps physique, donc les anges sont des esprits. Alors, c'est assez simple comme définition, mais ça résume assez bien. Autre chose, si vous prenez, disons, une concordance, puis vous regardez le nombre de fois où le mot « ange » est donné, vous n'aurez pas une idée complète de toutes les fois que les Écritures en parlent. Quelle est la raison pour ça? Parce que si on regarderait « ange » et on commencerait à compter les occurrences, bien, on arriverait à un certain nombre, mais ça sera pas 370. Pourquoi? Parce que les Écritures utilisent une terminologie différente pour parler des mêmes choses. Alors, on a besoin de connaître quels mots les Écritures utilisent pour parler d'eux. Alors, on va regarder dans Job, chapitre 1, verset 6, et dans le chapitre 2, verset 1, on parle des anges comme étant des fils de Dieu. Donc, fils de Dieu, dans certains endroits, fils de Dieu avec un F minuscule, ça fait référence aux anges. Dans d'autres endroits, comme dans le psaume 89, le verset 6 et 8, on parle des anges comme étant des saints, S-A-I-N-T-S. Alors, ça fait une différence entre nous, les saints, et eux, mais dans certaines parties des Écritures, on fait référence à eux comme étant les saints. Dans d'autres, on parle de eux comme étant des esprits. Le texte qu'on a utilisé ce matin Il s'est dit que ce sont des esprits envoyés pour faire un ministère envers les élus. Et dans d'autres passages, on parle de ceux qui veillent. L'expression « ceux qui veillent » dans Daniel 4, versets 10, 14 et 20, c'est vraiment une référence aux anges aussi. D'autres expressions qui sont utilisées, « trône », on sait que dans Colossiens 1, verset 16, on parle de quatre expressions qui font référence à des anges. Les trônes, les seigneuries, les autorités et les puissances. Voyez-vous, si quelqu'un veut faire une étude exhaustive du sujet des anges dans les Écritures, il faut tout qu'il y aille voir ces expressions-là. Tout partout, ce que tu lis dans les Écritures, il faut que tu ailles voir, pas juste l'idée mot « ange », mais toutes les autres expressions que les Écritures utilisent dans les Écritures. Donc, on a commencé, qui sont les anges? On a commencé par regarder la terminologie. La deuxième chose qu'on se doit de mentionner, c'est que les anges sont des êtres spirituels, donc pas de corps, créés. Donc, ce sont des créatures. Si vous avez lu vos Écritures d'un couvert à l'autre, vous avez sûrement vu quelque part que quand un ange apparaît à des êtres humains, la réaction que l'être humain a, c'est toujours de vouloir l'adorer. Ils tombent sur leur face. Je ne sais pas, les êtres humains sont fascinés. Même Jean, dans l'Apocalypse, un ange, puis l'ange dit « Non, 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 on adore, tu ne m'adores pas moi, je suis une créature comme toi. » À quelque part, c'est parce que si les êtres humains sont portés à vouloir les adorer, ça doit être parce qu'ils sont impressionnants. Moi, je n'ai jamais vu, puis je pense pas que vous autres, un d'entre vous, n'ait vu non plus. Mais en tout cas, donc, il faut se souvenir que ce sont des êtres spirituels créés. Les anges n'ont pas toujours existé, bien entendu. Ils font partie de l'univers que Dieu a créé. Dans un passage qui fait référence aux anges comme à l'armée des cieux, Esdras dit « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » L'armée des cieux, souvent, c'est une expression qui englobe très large. L'armée du Seigneur, c'est vraiment l'ensemble de tous les moyens qu'il a à sa disposition pour agir dans nos vies. Et c'est beaucoup plus large que juste les anges. Mais les anges sont inclus dans l'armée des cieux. Donc, ça dit dans Néhémie 9:6 que l'armée des cieux se prosterne devant Dieu. Donc, l'armée des cieux, prosterner, ça veut dire adore. Comme on l'a vu dans le verset qu'on avait sur la projection au début, les anges adorent le Seigneur. Alors, le Seigneur nous dit dans les Écritures que les anges, il a créé toutes choses, y compris les choses visibles et invisibles. Les anges, les Écritures nous disent qu'on en a peut-être logé sans même qu'on le sache. C'est assez spécial, ça. Autre chose, les Écritures nous disent sur eux, est-ce qu'on est conscient de ça, que ce matin, les anges observent notre adoration à nous ici? Ça, à quelque part, on ne s'arrête pas assez souvent, malgré que les Écritures nous le disent, malgré qu'on se l'ait déjà fait dire, les anges veulent regarder l'œuvre que Dieu a fait dans les êtres humains qu'ils ont régénérés. Donc, ce matin même, les anges nous observent. Ça fait curieux là, de penser à ça, qu'il y a des anges qui nous regardent ce matin. Ils regardent de quelle façon on parle de Dieu, de quelle façon on réagit. C'est intéressant de noter ces choses-là. Donc, le Seigneur nous dit qu'il a créé les choses visibles et invisibles. Et dans Colossiens 1:16, comme on a vu tantôt, il nous dit, il parle des anges, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Donc, il est en train de nous dire qu'à l'intérieur du monde des anges, il y a des hiérarchies. Il y a des archanges, il y a des anges qui sont plus puissants que d'autres, il y a des anges qui ont un territoire, parce qu'on parle de trône, de seigneurie, d'autorité, de puissance. On va revenir là-dessus. Et autre caractéristique qu'ils ont, c'est qu'ils sont capables d'exercer un jugement moral. Alors, bien entendu, ils ont un jugement moral parce que, à cause du fait qu'il y en a selon les études qu'on fait dans les Écritures, semble-t-il qu'il y en aurait un tiers d'entre eux qui sont tombés, donc les anges mauvais. Chose assez particulière, si on demandait une question ouverte ce matin, là, combien il y en a d'anges? Est-ce que les Écritures nous donnent des indications sur le nombre d'anges qui existent? Oui, elle nous en donne. Elle nous en donne de façon très précise, même. Vous allez voir que c'est assez surprenant. On reviendra un petit peu là-dessus, sur le nombre tantôt. Autre chose qu'on sait d'eux, c'est qu'ils ont une grande intelligence quand ils s'adressent à des personnes qui impressionnent ceux qu'ils visitent. Alors, normalement, Dieu ne permet pas qu'on voit les anges. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne nous observent pas. Mais dans certaines occasions des Écritures, on voit que Dieu a permis que l'être humain voit un ange sous une forme corporelle, une façon visible. Et il y a beaucoup de passages qui nous parlent de ces choses-là. Là, on va regarder les types d'anges dont les Écritures nous parlent. Si je vous disais, nommez-moi les dons, les types d'anges. D'abord, il y a les chérubins. Vous avez sûrement déjà entendu parler du mot chérubin. Alors, dès le livre de la Genèse, quand Dieu a mis l'homme en dehors du jardin, qui a mis à la porte du jardin pour empêcher l'homme de revenir? Les chérubins. Alors, dans Genèse 3, 24, les chérubins ont été placés pour empêcher les êtres humains de revenir dans le jardin. Autre place que les chérubins apparaissent, on a vu dans le tabernacle, sur le propitiatoire. Le propitiatoire, on sait que c'est le couvercle de l'Arche de l'Alliance en or massif. On avait parlé que quand on avait étudié le sujet, que ça représentait la divinité de Jésus-Christ. Alors, mais à l'intérieur, il y avait deux anges qui se regardaient l'un l'autre, face à face, et ça, c'était des chérubins. Et il y avait la tête vers l'œuvre, vers Christ. Donc, c'est vraiment l'idée que les chérubins sont présents, regardent l'œuvre de Christ, veulent voir l'œuvre de Christ. Alors, ils sont présents sur l'Arche de l'Alliance, les ailes étendues et l'une vers l'autre. Et puis, le Seigneur avait dit, dans Exode 25, verset 22, « C'est là, au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur le coffre, que je me manifesterai à toi. C'est de là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. » Alors, on voit, les chérubins sont des êtres, des anges d'une grande importance, d'un très haut rang. Il y a aussi les séraphins. Pas séraphins poudriers, là, mais les autres séraphins. Alors, un autre groupe d'anges, les séraphins, sont mentionnés dans Ésaïe. On l'a déjà lu à maintes et maintes reprises, ce passage-là, où on voit que Ésaïe est placé devant une vision de Dieu et il est extrêmement et très fortement impressionné par la vision divine. Et là, on dit que ces anges-là, qui se couvrent les yeux quand ils se présentent devant Dieu, ils se couvrent les pieds et qu'ils se couvrent complètement et ils crient. Ils ne disent pas « Saint, Saint, Saint ». Ils crient littéralement « Saint, Saint, Saint à l'Éternel des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire, qu'ils disent dans Ésaïe. Dans d'autres passages, donc on a les chérubins, on a les séraphins, et on a aussi, dans d'autres passages, on nous parle des êtres vivants. Par exemple, dans Ézéchiel et dans Apocalypse 4, versets 6 à 8, ça dit qu'ils adorent Dieu continuellement. Jour et nuit, il ne cesse de dire « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Apocalypse 4, versets 6 à 8. Alors vraiment, ces êtres vivants-là, on pense que c'est des anges. Maintenant, on a parlé de hiérarchie. Alors, on sait que Satan, c'est le chef pour les anges mauvais, mais dans les anges bons, il y a aussi une hiérarchie que Dieu a voulu. Alors, dans Jude, verset 9, on parle d'un archange. Arc, ça veut dire au-dessus. Donc, la personne, l'archange est au-dessus des autres anges. Il a plus d'autorité que les anges en général. Alors, on en parle comme un des principaux chefs des anges dans Daniel, chapitre 10, verset 13. On dit qu'il est un des chefs des anges. Alors, quel est le nom de cet ange-là, un archange? Les Écritures nous donnent deux noms d'anges. Quels sont-ils? Michel et Gabriel. Alors, deux anges que Dieu parle, il mentionne leur nom comme tel dans les Écritures. Alors, dans Daniel, on a Daniel 10, 13, on a Michel qui semble être un chef de l'armée angélique. Ça dit, alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges, mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Apocalypse 12, versets 7 et 8. Et autre chose, des fois on lit les Écritures rapidement, le Seigneur nous dit que quand il va revenir, ça va être à la voix d'un archange. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. À la voix d'un archange. Quand le Seigneur va revenir, il dit, ça va être à la voix d'un archange qui va apparaître. Alors, ça va sûrement être impressionnant, ça aussi. Alors, les anges dont on connaît le nom, on vient d'en nommer un, Michel, qui est mentionné dans Jude 9, dans Apocalypse 12 et dans Daniel 10. Il est appelé Michel, l'un des principaux chefs. Si ça dit l'un des principaux chefs, ça veut dire qu'il y en a plus qu'un. Alors, Michel est un des un autre qui nous est présenté dans les Écritures, c'est l'ange Gabriel. Il nous est présenté en Daniel 8, verset 16, et dans Daniel 9, verset 21, comme un messager qui vient de Dieu pour parler à Daniel. Gabriel nous est présenté aussi comme un messager de Dieu dans Luc 1, quand il vient, alors ça dit, l'ange répond à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, Luc 1, 19. Alors c'est un autre ange important. Parce qu'on lit, 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille. Cette jeune fille s'appelait Marie, dans Luc, chapitre 1, versets 26 et 27. Maintenant, est-ce que les anges peuvent être à plus qu'une place à la fois? Non. Les anges ne peuvent pas, sont des créatures, et comme toute créature, y compris Satan. Il y a beaucoup de monde qui se font des illusions en pensant que Satan peut être partout à la fois. C'est pas vrai. C'est pas ce que les Écritures enseignent. Alors, les anges ne peuvent qu'être à un seul endroit à la fois, et ils ne sont pas omniscients ni omniprésents comme Dieu. Bien important de se souvenir de cela. Voyez-vous, ça dit dans Luc 1, 26, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Alors, on voit clairement que quand un ange est envoyé vers Daniel, il lui dit, « Je suis venu vers toi en réponse à tes paroles, mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. » Alors, on voit qu'il y a sur la terre une guerre, et Dieu se sert des anges pour contrôler des choses, comme là dans Daniel, quand il dit, « Je suis venu en réponse à tes paroles, mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. » Le Seigneur se sert des anges pour rétablir certaines choses sur la terre. Alors, il leur dit, dans Michel, un des principaux chefs, il dit, « Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir. » Le Seigneur se sert parfois des anges pour révéler des choses qui concernent une prophétie. Ils veulent te fait comprendre des choses à venir qui ne sont pas encore arrivées. Maintenant, là, il y a une belle question. Tantôt, on s'était dit, combien il peut y avoir d'anges sur la terre? Moi, j'avoue que la question, quand je l'ai vue, j'ai dit, oh, je savais que j'avais déjà entendu ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Mais si tu m'aurais demandé le nombre, j'aurais dit, oh, je ne sais pas. Maintenant, quand on lit les Écritures avec attention, on a des réponses à ces questions-là. Comme dans Daniel, chapitre 7, versets 9 et 10, si vous voulez y aller, on va regarder ça. Il dit, « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit. » Bien sûr, l'Ancien des jours, on parle de Dieu. Il dit, « Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. » Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Et c'est dans le verset 10 qu'on a une réponse. Ça ne nous dit pas que c'est le chiffre exact officiel du nombre d'anges sur la terre, mais ça nous donne une bonne indication. Et là, ça dit dans le verset 10, « Un fleuve de feu sortait et se répandait devant lui. » On parle de Dieu, là. Un fleuve de feu sortait et se répandait devant lui. Juste l'image, c'est impressionnant. Hein? Un fleuve de feu qui sort et qui se répand devant lui. Et là, on a la réponse, 1 000 000 le servaient. 1 000 000, c'est 1 000 000. On est d'accord avec ça? Après ça, ça dit, et 10 000 000 se tenaient devant lui. 10 000 000, 1 000 000, c'est quoi? C'est 1 000 000. Donc, c'est en train de dire, 1 000 000 le servaient, donc 1 000 000 le servaient, et 10 000 000 se tenaient devant lui. Donc, 10 000 000 d'anges. Donc, 10 000 000, 1 000 000. On est rendu pas mal à un gros chiffre. 10 000 000, 1 000 000 d'anges qui sont devant lui. Et ça ne dit pas que c'est nécessairement le chiffre global. Mais ça nous donne une idée combien ils sont nombreux. Alors, ça ne nous précise pas le nombre d'anges exactement, mais ça nous dit, et il y a d'autres expressions dans les Écritures, par exemple dans Deutéronome chapitre 33, verset 2, ça dit « des saints anges par myriades étaient autour de lui ». Myriades, c'est des milliers. Alors, on apprend aussi dans le psaume 68, verset 18, « Les chars de Dieu sont innombrables, des milliers et des milliers. » Lorsque nous venons rendre un culte à Dieu, nous rentrons dans la présence de milliers d'anges. On va y aller. Hébreux, chapitre 12, verset 22. Hébreux, chapitre 12, verset 22. Mais il est en train de dire, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous et des esprits des justes parvenus à la perfection. » Donc, à quelque part, les Écritures nous apprennent que les anges... Puis, il y a d'autres passages qui disent que les anges désirent plonger leur regard dans les choses qui concernent les choses spirituelles. Je me souviens d'avoir lu quelque part, on dit souvent, quand les gens sont mis face à la doctrine de la souveraineté de Dieu dans le choix de ses élus, parfois les hommes ont de la difficulté à accepter la doctrine, ils vont dire mais là c'est pas juste, il a pas sauvé tout le monde, pourquoi il a pas sauvé tout le monde? Et là les gens ruent des brancards, comme on dit. C'est bizarre qu'on ne fait jamais mention des anges. Les anges qui sont tombés, le tiers qui sont tombés, si on parle de tout à l'heure, on parlait de 10 000 000, si disons qu'il y en a tombé le tiers, ça voudrait dire qu'il y aura 3 milliards d'anges au moins. Ça, je ne vous donne pas des chiffres officiels, je vous donne juste une... Je dis 10 milliards, ça voudrait dire 3 milliards point 33 d'anges qui sont tombés, puis que Dieu a décidé de les laisser aller dans leur perdition, et il n'a pas pourvu un rédempteur pour eux, tandis que nous, il l'a fait. On se révolte pour les choses d'humains, Mais pour les anges, c'est comme si on dirait que c'est moi un contre-fou, je ne suis pas un ange. C'est pas de même, ça marche. Dieu nous démontre son amour envers nous, sa grâce envers nous, par le fait que nous, il nous a accordé sa grâce, et que pour un nombre extrêmement important d'anges, il ne l'a pas fait. Maintenant, une autre question, quand on veut se demander qui sont les anges, c'est bien à la mode aujourd'hui, les anges gardiens. Alors, les gens ont-ils des anges gardiens personnels? Moi, quand j'étais jeune, on nous donnait des petites images. Et on avait un petit bonhomme, puis à côté, il y avait un gros ange qui était comme à côté de nous autres, qui avait l'air à vouloir dire, « Ben moi, je suis avec toi, je marche avec toi, je te protège, et tout ça, et tout ça. » Est-ce que ça enseigne que l'être humain, tous les êtres humains, ou du moins tous les élus, ont des anges qui les accompagnent, qui les protègent tout au cours de leur vie? Les Écritures ne semblent pas vouloir donner... Quoi qu'il y a des passages qui pourraient peut-être être expliqués comme cette façon-là. Voyez-vous, l'Écriture nous dit clairement que Dieu envoie des anges pour nous protéger. Mais ici, des fois, on va utiliser des passages où on fait référence à Jésus-Christ, mais qui peuvent, par extension, s'adresser à nous, comme par exemple le psaume 91, versets 11 et 12. Il dit « Il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Vous souvenez-vous de la tentation de Jésus? Jette-toi en bas. Puis là, le diable, il cite ce verset-là. Alors, c'est sûr que ça fait référence à Jésus, mais par extension, on pourrait dire, quand il dit « Il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre », c'est pas suffisant comme verset pour dire que chaque être humain a un ange gardien. Mais est-ce que ça exclut l'idée que des anges peuvent avoir intervenu dans nos vies pour nous protéger dans certaines circonstances? Autrement dit, la réponse de la Bible, c'est que les êtres humains, les élus, n'ont pas nécessairement un ange gardien, mais que Dieu permet parfois, dans certaines circonstances, qu'un ange puisse intervenir dans votre vie. On l'a vu tout à l'heure dans Hébreux 1, 13 et 14, et il parle des anges. Il dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» Envoyé pour exercer un ministère. Un ministère, ça veut dire quoi? Ministère, c'est un service. Quand on est dans le ministère, on n'est pas là pour être servi, on est là pour servir. Ministère, ça veut dire servir. Pour exercer un ministère en faveur de qui? De ceux qui doivent hériter du salut. Donc, les Écritures nous enseignent que Dieu se sert des anges pour différentes... dans les relations qu'il a avec son peuple, soit actuel ou soit le peuple à venir, parce qu'il dit qu'ils doivent hériter du salut. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont nécessairement, mais les anges peuvent peut-être avoir contribué à te protéger dans certaines circonstances, pour protéger ta vie parce que tu étais pour venir au salut plus tard. Alors, c'est des choses qui sont dans les Écritures. Et il y en a d'autres qui vont utiliser certains versets de Matthieu pour dire... Justement, c'est des versets qui sont souvent utilisés par l'Église catholique pour justifier la doctrine des anges gardiens. Parce qu'on a dans Matthieu 18, verset 10, « Leurs anges, on parle des enfants, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. » On a un exemple très précis dans Actes 12, verset 15. Quand on parle de l'ange de Pierre, on parle de l'ange de l'apôtre Pierre. Donc, on pourrait déduire si Pierre en a un, donc tout le monde en a un. C'est pour ça que les Écritures disent l'ange de Pierre. L'ange est intercédé pour Pierre parce que Dieu voulait que Pierre soit libéré. Alors, dans Actes 12, 15, on a... cette affaire-là qui nous est mentionnée, l'ange de Pierre, acte 12, verset 15. « Il lui dit, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange, dans le verset 16. Alors, on sait que dans toute l'histoire, c'est les anges qui sont intervenus, ont brisé ses chaînes, et ont dit, les portes vont être ouvertes, tu peux sortir. Puis là, mon Pierre est arrivé à l'endroit où les chrétiens se rassemblaient. Il a cogné à la porte, la femme, elle s'en va là, puis elle dit, hein? Et Pierre, et là, elle est complètement déboussolée, elle croit pas ça, et elle s'en va le dire à ses amis, hey, Pierre est là à la porte. Et ils ont dit, t'es folle, c'est son ange. Et ça a pris du temps avant qu'ils réalisent que, oui, Dieu avait envoyé véritablement quelqu'un pour sauver, libérer notre ami. Alors, la réponse à la question, les gens ont-ils des anges gardiens personnels? Les Écritures nous disent que Dieu peut permettre que des anges interviennent dans nos vies, mais ça ne nous dit pas que chaque chrétien a nécessairement un ange gardien. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà lu au Moyen Âge, les théologiens catholiques étaient partis sur des grandes discussions philosophiques, combien il y a d'anges sur la tête d'une épingle, et il y avait d'autres grandes questions philosophiques du style, est-ce que les anges se marient, oui ou non? Est-ce que Jésus a enseigné qu'à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront plus, ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel? Donc, les anges ne se marie pas. C'est des fausses questions. Quand tu te mets à philosopher et tu ne tiens pas compte de ce que les Écritures disent, tu pars dans toutes sortes de directions, tu t'égares. Alors, les anges ne se marient pas, donc ça implique qu'ils n'ont pas de relations sexuelles comme les hommes. Maintenant, si on parle de la puissance des anges, est-ce qu'un ange bon est plus puissant qu'un être humain? Les Écritures répondent là-dessus. Ils ont apparemment une très grande puissance parce que ça dit dans le psaume 103, en parlant d'eux, « Vous, ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole. » On en parle comme, voyez-vous, dans le psaume, dans le Éphésiens 1, 21, on leur donne l'expression « les puissances ». On parle des anges et on dit d'eux que ce sont des puissances, des seigneuries, des autorités. Alors, quand si on va voir dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 11, ça nous dit qu'ils sont bien supérieurs en force et en puissance aux êtres humains rebelles. Donc, les anges, ils sont bien supérieurs en force et en puissance aux êtres humains. Prenez par exemple l'histoire de la résurrection. Un ange est venu, a roulé la pierre. C'était des énormes pierres. Les hommes, ça aurait pris un gros paquet d'hommes pour être capable de tasser ça. Et là, ça nous dit qu'un ange a roulé la pierre. Alors, ça implique qu'ils ont une force vraiment extraordinaire. Mais, faut dire qu'ils sont puissants, mais ils ne sont pas omnipotents. Ils ne sont pas. Leur force est quand même limitée, contrairement à celle de Dieu. Donc, ils ont plus de connaissances que l'homme, mais n'ont pas l'omniscience. Ils sont plus puissants que les hommes, mais pas omnipotents. Ils sont plus rapides que les hommes, mais non pas omniprésents. Alors, on voit différentes qualités qu'ils ont, mais ça ne fait pas d'eux des petits dieux pour autant. Alors, ils sont des créatures quand même qui sont supérieures à nous sur bien des aspects, mais qui ne sont pas nécessairement Dieu pour cela. Maintenant, il y a des autres passages dans les Écritures. Quand on parle des anges, il y a un autre passage. Il y a certains passages qui nous parlent de l'ange de l'Éternel, et souvent on va mettre un A majuscule. À ce moment-là, quand on parle de l'ange de l'Éternel, de qui on parle? Est-ce qu'on parle d'un ange, d'une créature, ou si on parle d'une théophanie de Dieu incarné qui apparaît sous une forme d'ange? Alors souvent, dans les Écritures, il y a certains passages qui nous parlent de l'ange de l'Éternel, et à ce moment-là, la plupart du temps, c'est ça fait référence à une... prenez par exemple dans le livre de la Genèse, dans quand ça dit, il parle de Agar, on parle de l'ange de l'Éternel, on pense que c'est souvent des théophanies. Et dans Genèse 16 aussi, il dit « Je te donnerai de très nombreux descendants, ils seront si nombreux qu'on ne pourra les compter ». Alors, il y a plusieurs passages dans les Écritures, quand on utilise l'expression « l'ange de l'Éternel », très souvent, ça fait référence à une théophanie, donc Jésus-Christ incarné qui a l'air d'un ange. On a, par exemple, on a étudié un petit peu le livre de... Voyons, de celui qui est allé à la guerre, là, voyons, Josué. Josué, qui est apparu? C'est l'ange de l'Éternel. Alors, la plupart des commentateurs vont dire que l'ange de l'Éternel, c'était fort probablement une théophanie ou une christophanie, le Christ qui apparaît sous une forme, et les Écritures utilisent souvent l'expression « l'ange de l'Éternel ». Alors, quand on parle de l'ange de l'Éternel, il ne faut pas les confondre avec les autres anges des Écritures. Voyez-vous, un exemple de ça, ça serait Exode 3. Quand Moïse a vu dans le buisson ardent, ça dit « Quand l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse dans une flamme au milieu d'un buisson, il a dit « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Donc, si on dit que c'est l'ange de l'Éternel, ce n'est certainement pas un ange dans le sens de l'être créé. C'est un autre, c'est comme, parce que le mot ange peut vouloir dire aussi un envoyé. Donc, Dieu permettait que Moïse voit un ange sous forme, d'un ange. Maintenant, la deuxième question qu'on va regarder aujourd'hui. Quand les anges ont-ils été créés? Je vois des gros points d'interrogation dans nos visages. Alors, tous les anges ont certainement été créés avant le septième jour de la création. Pourquoi? Parce qu'on lit « Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée » dans Genèse 2:1, et le terme « armée » étant compris comme signifiant les créatures célestes qui habitent l'univers de Dieu. Encore plus explicite est la déclaration « Car en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le septième jour, il s'est reposé. » Par conséquent, tous les anges ont été créés au plus tard, le sixième jour de la création. Alors, pouvons-nous être plus précis? Il y a peut-être une allusion à la création d'êtres angéliques le premier jour de la création, quand nous lisons qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et que tout de suite après, nous disons que la terre était informe et vide, mais sans aucune mention du ciel dans ce deuxième verset. Alors, on serait porté à dire qu'ils ont été créés le sixième jour, parce que le septième jour, Dieu a dit que tout était créé, que tout était bon. Donc, à quelque part, et aussi le passage dans Job, où ça nous dit que les anges, au moment de la création, chantaient de joie à regarder la création en train de se réaliser. Alors, quelque part, il faut que ça soit dès le début, quand Dieu a créé. Maintenant, on va commencer peut-être un petit peu le troisième point, parce qu'il y a beaucoup de stock dans le troisième et quatrième point. La place des anges dans le plan de Dieu. Autrement dit, comment Dieu a voulu utiliser ces êtres-là dans son plan général envers les hommes? Dans le psaume 103, ça dit, verset 20-21, « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs. » et qui fait sa volonté. Donc, si on regarde la place des anges dans le plan de Dieu, il faut regarder quelque part les fonctions que Dieu leur a confiées dans l'ensemble des Écritures. Les Écritures nous parlent de la fonction des anges en termes de généralité, à beaucoup d'endroits, et en termes ensuite les anges dans la vie de Jésus et les anges dans la vie des croyants. On va tout aller à chacun des points. Donc, les fonctions des anges en généralité. Les Écritures nous apprennent qu'ils se tiennent devant Dieu et l'adorent. Alors, les anges qui sont au ciel sont en sa présence et ils l'adorent. On a beaucoup de passages qui nous disent ça. Hébreux 1:6, Apocalypse 5:11 et bien d'autres passages. Autre fonction des anges dans le plan de Dieu, en général, ils protègent et délivrent le peuple de Dieu. Là, on pourrait aller regarder beaucoup de versets. Si jamais il y en a qui sont intéressés à avoir tous les versets, vous téléchargerez la leçon. J'ai tout mis les versets. Bien sûr, on ne peut pas aller voir tout cela, là, parce qu'on passerait plus que 2 semaines à regarder les anges. Bon, mais il y a beaucoup de passages des Écritures qui nous montrent les anges comme protégeants et délivrants le peuple de Dieu. Par exemple, Genèse 19, on va aller en avoir au moins un. Genèse 19, verset 11. Genèse, chapitre 19, verset 11. Et ils frappèrent d'aveuglement. Alors, on a le passage dans Lot où les anges sont envoyés pour protéger Lot. Mais ça dit dans le verset 11, « Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. » Alors, on a un exemple de délivrance. Si l'ange n'était pas intervenu, les gens de Sodome et Gomorre étaient vraiment dans une mauvaise attitude, et c'est Dieu qui a permis que l'ange les protège. Et il y a beaucoup d'autres passages dans le livre de 1 Roi, dans Daniel, dans le livre des Actes, on l'a vu tantôt. Alors vraiment, c'est retenir l'idée que Dieu se sert souvent des anges pour protéger et délivrer. Et qui nous dit que nous, des fois, on n'a pas passé proche de mourir dans un accident ou dans toutes sortes de choses qui nous arrivent où Dieu n'a peut-être permis qu'un ange soit envoyé pour nous délivrer ou nous protéger? C'est fort probablement que ça nous est arrivé, mais peut-être qu'on ne le sait pas à cause du fait qu'ils sont invisibles. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas permis que certaines choses arrivent comme ça au cours de nos vies. Autre chose, une autre de leurs fonctions, c'est de nous guider et d'encourager les serviteurs de Dieu. Alors, ça arrive souvent que Dieu se sert des anges pour guider les serviteurs. Et autre chose, qu'il les utilise pour transmettre des révélations divines, comme par exemple dans l'Apocalypse, Apocalypse 1:1, et Dieu dit qu'il envoie un ange pour, des fois, préciser une prophétie des choses qui sont pour arriver plus tard. Autre chose qu'ils font, ils interprètent la volonté de Dieu aux hommes. Et ils interviennent parfois dans la vie de certains serviteurs de Dieu. On va prendre l'exemple de Daniel. Si on va lire le livre de Daniel et qu'on regarde la présence des anges dans Daniel, il y en a beaucoup. Et après ça, dans Zacharie aussi, on a l'intervention d'anges. Dans le Jean lui-même. Et souvent, ils vont être les exécuteurs des jugements de Dieu sur les individus et sur les nations. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 et 8. On va y aller voir. 2 Thessaloniciens, versets 7 et 8. 2 Thessaloniciens, versets... On va continuer à parler parce que pour... ça continue à les gens vont penser que j'ai abandonné. 2 Thessaloniciens. Qu'est-ce que j'ai dit? 7 et 8. 2 Thessaloniciens, quel chapitre? J'ai tellement de versets, moi, là, que je suis... OK, 2 Thessaloniciens 1, versets 7 et 8. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec vous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Alors quand il va revenir, il ne sera pas tout seul, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, parfois, le Seigneur les utilise pour amener des jugements sur des individus ou sur des nations. On se souvient aussi de Sodome et Gomorre. Il s'est servi d'anges pour sortir Lot et pour le protéger. Et ensuite, pour les anges, ont commandé le jugement. On se souvient aussi d'Hérode. Hérode qui était du haut de sa... Et il y avait venu des gens, puis là, les gens, ils criaient « Voix d'un Dieu » et non pas « Voix d'un homme ». Et au moment même, Dieu a envoyé un ange qui est mort sur place. Donc, un jugement, ça peut être soit des individus, ça peut être soit des nations. Donc, le Seigneur, ça sert d'eux pour juger. Donc, dans leur fonction, il y a toutes ces choses-là. Et on a parlé tantôt que Dieu les utilisait souvent pour... révéler des mystères de prophétie. Comme voyez-vous dans Apocalypse, chapitre 17, verset 1, il dit, voici, viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée. Et dans Apocalypse 21, verset 9, il dit, viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Autre chose que les anges font, ils transportent les sauvés au ciel après leur mort. Luc 16, verset 22. Ils transportent les sauvés au moment de leur mort. Autrement dit, ça aurait tout l'air de parler de ça dans le psaume 23, quand on traverse les sentiers de l'ombre de la mort. On n'est pas seul. Il nous conduit et ça peut être des anges qui vont nous conduire jusqu'au ciel. Bien sûr, si on était tout seul, on serait probablement terrorisé, mais Dieu doit permettre que ces choses-là arrivent pour nous Alors, il y a eu, bien entendu, les fonctions de certains anges en particulier. On va arrêter après les fonctions de l'archange Michel. Donc, le Seigneur s'est servi de l'archange Michel. Et il l'appelle un de ses premiers chefs et qui avait combattu à ceux qui étaient des adversaires de Dieu dans le livre de Daniel. Il est appelé Michel l'archange. Il est représenté comme le chef des anges et comme chargé d'une mission. Et dans Apocalypse 12, verset 7, il dit « Michel et ses anges ». Donc, il est le chef des armées qui font la guerre à Satan, le grand dragon et ses démons. Alors, ce qu'on va faire la semaine suivante, on va regarder la place que les anges ont eue dans la vie de Jésus lui-même. On va voir, quand on lit les évangiles, on voit que les anges sont très présents dans la vie de Jésus, tout au long, à sa naissance, à sa mort, à toutes sortes d'occasions, on voit les anges. Alors, ça a été une autre de leurs fonctions. Et ensuite, on va regarder la place des anges dans nos vies à nous. Et on va voir que sont beaucoup plus présents qu'on est porté à penser. Et le fait de reviser ça nous amène à ajuster. Est-ce qu'on ajusterait nos comportements dans l'Assemblée, sachant que les anges nous observent? J'avoue que c'était intimidant un petit peu. Parce qu'ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus puissants que nous, et sûrement qu'ils doivent prendre plaisir à voir qu'on fait les choses correctement. Mais je ne sais pas quel effet que ça leur fait quand ils voient des choses qui sont pas vraiment dignes d'un enfant de Dieu. Alors ça, c'est une autre affaire. Alors on va terminer là-dessus. Alors Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois. On a besoin de réviser nos notions concernant toutes les révélations que tu fais concernant ces êtres dans les Saintes Écritures. Ouvre nos intelligences, Seigneur. On a besoin de comprendre ces choses-là. Et bien entendu, Seigneur, on se doit de se rappeler qu'ils sont des créatures et, Seigneur, qu'on ne doit pas se laisser entraîner dans toutes sortes d'idées fausses et mensongères avec tout ce qui circule aujourd'hui dans les médias, dans les livres, sur Internet, un peu partout, concernant les gens aujourd'hui sont fascinés. Et comme on le disait tantôt, beaucoup d'Américains croient avoir vu ou senti la présence d'anges autour d'eux. Alors, Seigneur, permet qu'on s'en tienne au sein des Écritures concernant tout ce qui concerne les anges dans nos vies. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.